Alors, je voudrais parler sur une histoire qui a secoué donc les médias de cette semaine. On parle de l'histoire de notre papy toulousain dont la maison est squattée depuis septembre. Vous savez, ils se sont installés là-bas chez lui, ils ont changé les serrures. Donc, ils sont actuellement inexpulsables hein, à cause du prolongement de la période hivernale. Lorsque lui, le papy, a été déposé plainte, les squatteurs étaient déjà là depuis 48 heures. Et du coup, la police n'a pu rien faire. Hein. La trêve hivernale, en plus, comme je vous le disais, a été prolongée jusqu'au mois de mai. Alors, cette maison qu'il n'habitait plus, le retraité comptait en fait la vendre pour rejoindre son épouse qui vit dans une maison de retraite dans le département voisin. Donc aujourd'hui, il est sans solution, même si ça a évolué dans la nuit, puisqu'en fait, c'est quand même terrible, ce sont les voisins qui ont fait pression sur les squatteurs, et les squatteurs ont libéré la maison, donc dans la nuit, et le papy va pouvoir enfin récupérer sa maison. Alors là, je voulais quand même vous dire qu'il y a un vrai problème avec la loi. Alors cette loi, je ne sais pas si vous avez suivi, elle a évolué depuis décembre, donc ça va mieux au niveau de la loi des squatteurs, on va dire, mais elle n'est pas rétroactive, c'est-à-dire que si votre maison est squattée avant le passage de cette nouvelle loi, vous étiez comme le papy. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même aujourd'hui revoir certaines lois? Parce qu'on est quand même balèze en France pour, du côté législatif, hein, mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même revoir une loi et faire la différence, vous êtes d'accord avec moi, je suppose, entre le squatteur pur et dur et celui qui a du mal à payer son loyer?
Tout à fait, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, tout à fait. Le squatteur, voilà. Il a une démarche volontaire d'occuper illicitement la propriété d'autrui, alors que le gars qui ne paye pas son loyer, ça veut dire qu'il est quand même régi par un contrat de bail qui a été régulièrement passé, donc il est quand même, il a une structure juridique qui lui est beaucoup plus favorable. Les squatteurs, il ne faudrait pas prendre de gants, je veux dire, dégager, c'est tout.
Mais on a le même cas d'ailleurs ici avec chez Roger. Oui, non mais c'est exactement la même chose.
Il y a eu un jugement là.
Marie-Jo,
tu sais,
connais bien le sujet.
Il y a des lois.
Non, mais on ne va pas manger maintenant, Jeannot. Enfin, Jeannot qui tend des bugnes à Marie-Jo qui est en train de s'exprimer.
Non, ça, il le fait exprès pour qu'elle se taise.
C'est pas obligé de...
Marie-Jo, fais attention.
Moi, je laisse parler, mais
il veut t'emboucher un coin.
T'inquiète pas, il n'est pas né celui qui va me faire taire.
Imaginez-vous que...
Ça, c'est vrai, ça.
Je croyais avoir encore un semblant d'éducation. C'est comme ça, les gars. Allez vous faire foutre.
Oui, alors donc, oui, la loi existe, mais...
Il y a des lois, elles existent dans un sens ou dans l'autre. Il faut les appliquer, qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre, on doit les appliquer. Après, faisons évoluer la loi. Si la loi n'est pas suffisamment apte à régler ce problème de squat, faisons évoluer cette loi. Mais attention, chaque fois qu'on crée une loi, il y a toujours des petits malins qui s'engouffrent dans un espace juridique, quel qu'il soit.
Oui, mais enfin, il devrait y avoir une loi. Alors, tu dis, la loi existe, elle est là. Mais moi, dès l'instant où c'est une maison... une propriété privée qui est squattée, mais dans l'heure, on les fout dehors. Enfin, moi, ça me paraît évident.
Ça, dans les principes généraux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la propriété est un droit inviolable et sacré. Donc, c'est tout.
Visiblement, non.
Fermez le banc. Voilà.
Visiblement, non, Jean-Claude.
On en a déjà parlé. Tu sais qu'on avait déjà eu le
non,
le
mais
cas.
On a le cas avec chez Roger. Alors,
mais chez Roger, je t'ai dit, mais tu n'as pas écouté.
Excuse-moi.
Il y a eu une décision de justice. Point.
Mais la décision de justice, elle est blairotte. Ce n'est pas leur propriété, c'est la propriété de Roger Didier.
Mais là, on n'est pas dans une démarche. C'est pas comparable. Tu compares deux choses qui ne sont pas comparables.
C'est une propriété. Non, mais attends.
C'est pas comparable.
C'est pas comparable?
Parce qu'il y a des gens qui nécessitent. Que l'État n'est pas en capacité de mettre à l'abri.
Tu n'es pas obligé d'aller squatter chez un particulier.
Oui, et c'est des associations, des citoyens qui ont pris le relais de l'État, dans ce cas précis, puisque tu parles de chez Roger.
Oui.
Puisque c'est normalement à l'État, et notamment à la DDCSPP, à faire ce travail de relogement des personnes qui sont dans la rue.
Oui, alors ça veut dire que demain, si l'État ne t'apporte pas de l'argent, par exemple, tu vas aller braquer une banque
C'est parce que je dis simplement que pour moi, il aurait été préférable, et il est, parce qu'on ne parle pas au passé, on parle
au présent.
Au présent, parce qu'aujourd'hui, des gens à la rue, il y en a encore. Hein.
Bien sûr.
Mais ils ne sont pas tous chez Roger, tu vois ce que je veux dire.
Bon, tout à fait.
Donc, le rôle de l'État, c'est de protéger ces gens-là et de les mettre à l'abri. Dans la mesure où l'État ne fait pas son boulot, ce qui est le cas pour l'affaire chez Roger, parce qu'avant chez Roger, ils étaient, je ne sais plus comment ça s'appelait là-bas, au centre-ville. Mmh. Tout simplement, c'est parce que l'État ne fait pas son boulot. Et donc, le mouvement associatif, heureusement qu'il y a les associations, d'ailleurs, je pourrais vous faire une émission.
Que pour ça
pour démontrer le rôle que jouent aujourd'hui les associations.
Excessif.
Hein?
Excessif.
Je ne sais pas s'il est excessif, mais heureusement qu'il y a les associations pour donner à bouffer aux gens. Heureusement. Hein? Heureusement. Franchement. Autrement, il y en a qui auraient vraiment faim.
Oui,
donc, il ne faut pas critiquer. On est dans un pays démocratique où le mouvement associatif est reconnu.
La loi de 1901 qui est heureusement
que le mouvement associatif est là. Hein, par contre, moi, ma position, c'est de dire qu'à des moments, c'est l'État qui doit prendre le relais.
Oui.
Et dans l'affaire des gens qui sont à la rue,
oui,
quels qu'ils soient, c'est à l'État de prendre le relais.
Oui, hein, d'accord.
Sauf qu'ils ne le font pas, ou pas assez.
Ce que je ne conçois pas, néanmoins, c'est qu'on puisse s'approprier la propriété de quelqu'un.
Mais ça, on est d'accord.
Ça, ce n'est pas normal. Association ou pas association, ça, ce n'est pas normal. Alors, je te rejoins, les assos, elles font leur boulot, mais oui, aller prendre
c'est donc, pas comparable.
Une maison, ça, ça se fait
que
pas.
Le cas que tu cites, c'est pas du tout comparable à chez Roger. C'est, tu peux
pas
rapprocher.
Squatte.
Ben oui, mais c'est pas du tout comparable. Chez Roger, c'est une démarche collective à la vue de tous. En fait, c'est pas du squat de gens qui viennent dans la nuit casser les portes et s'installer chez toi. En plus, il y a personne qui habite chez Roger, hein, en parenthèse. Hein.
Non, chez Roger.
Il y avait personne qui habitait.
Ah oui, c'était une maison qui n'était pas habitée.
Cette maison, elle était louée à l'AFPA.
Oui,
je sais pas si vous vous rappelez.
Je sais.
Elle a été abandonnée quand l'AFPA a quitté les lieux.
Il y avait une asso aussi qui venait.
Que voulez-vous ? Elle était
monsieur
de tout.
Moi,
je
parlais d'une question de principe.
Mais si ces personnes-là qui sont chez Roger avaient été logées par l'État, elles ne seraient pas chez Roger. Voilà, c'est tout. Et le fond du problème, il est là, aujourd'hui. Quand je vois que dans les villes, on nous montrait les villes de Bretagne et du Nord qui sont aujourd'hui frappées par le froid, qu'on a des gens qui dorment dehors, c'est pas possible dans un pays comme le nôtre, où on se targue d'être la sixième puissance du monde. C'est pas possible qu'on laisse dormir les gens dehors. C'est tout.
On saute du coq à l'âne avec Marie-Jo. Marie-Jo,
ne dérogeons pas.
Non. On saute du coq à l'âne avec Marie-Jo pour parler, évidemment, le Covid. Donc, visiblement, on est plus optimiste qu'il y a quelques semaines en arrière, visiblement, hein, je dis, puisqu'on nous avait annoncé éventuellement un reconfinement total. Tout compte fait, on ne reconfine pas. Et puis, visiblement, on n'est pas prêt de reconfiner. Est-ce que ça veut dire que tu es optimiste comme la majorité des Français sur le fait qu'on va peut-être voir le bout du tunnel et surtout sortir donc de cette pandémie, Marie-Jo ?
Écoute, moi, je l'espère. C'est qu'on en sorte le plus vite possible. Mais après, je me méfie beaucoup, beaucoup des annonces gouvernementales parce que c'est deux pas en avant, trois pas en arrière, quasiment tous les jours. Alors, il y a 8 jours, c'était quasiment le reconfinement total et de toute la France. Maintenant, on te dit que ce n'est plus le cas, mais si ça se trouve, dans une semaine, quand les premiers vacanciers vont rentrer chez eux, ce sera encore le cas. Donc, je le prends avec beaucoup de prudence. Il faut vraiment être prudent, continuer à faire ce qu'on fait jusqu'à maintenant, ce que les Français s'appliquent à eux-mêmes, c'est-à-dire respecter le couvre-feu, respecter les gestes barrières, prendre soin les uns des autres. Et peut-être que comme ça, on y arrivera. Parce que moi, je suis désolée, mais les annonces du gouvernement, il fallait mettre des masques. Tout le monde devait... D'abord, il ne fallait pas en mettre, puis il fallait en mettre. Puis maintenant, on te dit que les masques qu'on fait à la maison, ils ne sont pas bien ou ils sont bien. Enfin, il faut arrêter... Faut arrêter de dire tout et n'importe quoi tout le temps. Je pense qu'il vaudrait mieux, il faut savoir se taire. Mmh. Souvent, il vaut mieux se taire que de dire des bêtises.
Voilà. Et on va poser la question à Louis Albran, qui est avec nous en direct de Paris, comme régulièrement on se fait notre petit point. Salut Loulou.
Bonjour à tous mes amis.
Bonjour.
Comment ça va, Louis ?
Ben, ça va très bien. Dis-moi, notre échange. Déjà, merci de m'inviter, de me recevoir.
Je t'en prie.
Et j'ai eu beaucoup d'appels cette semaine, à la fois sur les réseaux sociaux et au téléphone. Ça intéresse les gens, notre petit point hebdomadaire, là, voilà. Un peu les Covid trackers des Hautes-Alpes.
Bon, voilà. Loulou, est-ce qu'on peut être optimiste, objectivement?
Ah non, il ne faut pas parler ni d'optimisme ni de pessimisme. Moi, je suis un scientifique, moi, il n'y a que le réel qui m'intéresse. Mais le mouvement actuel est très intéressant parce qu'on a deux épidémies. On a l'épidémie du Covid princeps, du premier Covid qui est en train de diminuer, dans le monde entier d'ailleurs, ce qui est assez étrange. Et en France, donc, puisque c'est la France où on vit, il y a une autre épidémie qui est en train d'émerger, c'est l'épidémie des variants. Alors les variants anglais, comme on l'avait dit, remplacent progressivement le virus. Aujourd'hui, il fait, sur l'ensemble du territoire national, 50%, bientôt 60%. Mmh. Mais il y a surtout l'apparition des variants sud-africains et brésiliens. Et notamment, tu sais qu'actuellement, à l'heure où on parle, dans la journée, le ministre de la Santé était en Moselle.
Oui, oui, il y en a un qui est...
Moselle, à Metz,
on danse la samba, il paraît qu'on danse la samba du côté de la Moselle, oui.
Oui, c'est étonnant parce que le gouvernement ne fait pas beaucoup la différence entre les deux. Ils sont quand même très différents au point de vue nocivité. Ils font 40% dans la région de Metz, etc. Alors on l'explique parce qu'à côté, il y a le Luxembourg, où il y a beaucoup d'aéroports internationaux, il y a aussi l'Allemagne à côté. Donc, alors ça, c'est inquiétant parce que ce variant brésilien, n'est-ce pas, il ne donne pas d'immunité naturelle. C'est pour ça qu'il y a eu ce drame à Manaus, au Brésil. Ouais. Et il n'est pas sensible aux vaccins actuels. Voilà.
D'accord. Okay.
Donc, tu posais la question, faut-il être optimiste, pessimiste?
Oui, actuellement,
il faut se réjouir que...
La courbe est visiblement stationnaire, hein.
Il semblerait, oui, plus que stationnaire, ça diminue. Ouais. Mais il semblerait que ces virus, indépendamment des mesures prises, le confinement, etc., qu'il fallait prendre, il faut faire quelque chose, il a son génie propre, si tu veux. Hein. Il s'étend, il régresse un peu.
Louis.
Enfin, c'est un organisme vivant qui a son génie propre.
Louis, on a des questions à te poser. Vas-y.
Oui, moi, salut, Loulou, c'est Jean-Claude Héron.
Bonjour.
Est-ce que tu vas bien?
Oui.
Oui, moi, ma question...
Un peu plus fort, s'il te plaît.
Je te parle un peu plus fort. Ce que tu viens de dire par rapport aux variants brésiliens est vachement important. En gros, tu dis les vaccins tels qu'ils existent aujourd'hui vont pas pouvoir nous immuniser contre ce variant. Est-ce que tu penses que les vaccins à venir, parce que ce qu'on nous explique, c'est que les vaccins peuvent évoluer rapidement, ils peuvent s'adapter aux variants. Est-ce que tu penses
Non, il faudra. Mais les chercheurs sont déjà en train de mettre au point un vaccin contre le variant brésilien. Et je pense que dès l'automne, on vaccinera les gens avec ce vaccin. Dans l'hypothèse, bien sûr, dans le cas d'école, où cette épidémie avec le variant brésilien s'étend et représente d'ici quelques semaines 60-70% des cas de Covid. Actuellement, il est circonscrit dans la région de Moselle. Et ce matin, j'ai vu que le maire a l'intention de fermer les écoles et de faire une espèce de confinement local.
Justement.
Et surtout d'arrêter les liaisons aériennes.
Ouais, justement, en parlant de confinement.
Il a attrapé, alors qu'il était vacciné par le Pfizer.
Louis.
Avec les deux injections. Il a attrapé le Covid brésilien. Malgré le vaccin, lui il l'a attrapé parce qu'il a fait un voyage en Afrique.
Louis.
J'entends pas. Si on pouvait parler plus fort, il y a un petit problème.
On parle très fort. Hein, on parle très fort. Je pense que c'est un problème au niveau de la liaison du téléphone.
Allô.
Oui, on est là. On est là. Tu nous entends, Louis? Allô.
J'entends pas bien.
Ah oui. Ça va être compliqué de continuer si tu nous entends pas. Loulou, tu nous entends? On a perdu Louis. On essaiera de le récupérer tout à l'heure.
Tant qu'on ne perd pas l'odorat.
Pardon ?
Tant qu'on ne perd pas l'odorat.
Ce qui disait Loulou, c'est vachement grave. Hein.
Oui, bien sûr, c'est
parce
grave.
Parce que franchement, ça veut dire qu'on respire, on commence à respirer. Au moment où on commence à respirer, parce qu'on voit un peu la sortie du tunnel, boum, ça nous retombe dessus. Quoi,
le problème avec ce virus, c'est qu'il mute, il passe sa vie à muter pour justement pouvoir toujours être proche de nous et de manière à pouvoir contrer tout ce qu'on va mettre en place. Alors, ça nous amène sur une autre histoire, c'est le passeport vaccinal. On commence à en parler. Alors, tout le monde était contre au début. Et puis, en fait, on se rend compte que plus ça va, et plus les gens se disent, tout compte fait, ça sera peut-être une solution. Et notamment, les acteurs de la culture qui le réclament. pour pouvoir réouvrir les théâtres, pour pouvoir réouvrir les cinémas, pour pouvoir réouvrir les musées. Ils réclament donc la mise en place de ce passeport vaccinal de manière à ce qu'ils puissent retravailler. Est-ce que ça va être une solution? Alors, Roselyne Bachelot, vous l'avez entendu cette semaine, elle est montée au créneau en disant non, c'est hors de question, pas de passeport vaccinal. Est-ce que ce serait une solution à l'avenir d'avoir un passeport vaccinal? Et on pourrait l'imaginer aussi même pour aller au restaurant, hein, éventuellement.
Quand on voit les balbutiements de la vaccination actuellement, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Est-ce que le passeport vaccinal, c'est une solution ou pas? Moi, je crois qu'il faut être très prudent sur la liberté des uns et des autres, notamment dans notre pays. Maintenant, le passeport vaccinal, ça existe quand tu vas dans certains pays. Pourquoi pas? Mais après, attention. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut être très prudent avec les libertés qu'on a dans notre pays. Et par rapport au monde de la culture, il y a d'autres pays qui ont ouvert la culture sans passeport vaccinal et qui s'en sortent très bien. Alors, il faut arrêter de tenir une carotte aux uns et aux autres.
Attention, il ne faut pas s'enflammer non plus. Marie-Jo, je vais prendre uniquement l'exemple de ce qui se passe en ce moment en Australie. Vous savez qu'il y a en ce moment donc l'Open d'Australie à Melbourne. Le public était dans les tribunes, il y avait 20 000 spectateurs, donc tout se passait bien jusqu'au moment où ils ont eu un petit problème de Covid. Et là, ils sont en train de tout refermer, mais tout refermer. Et c'est pas uniquement le stade qui referme, ils referment toute la région de Melbourne. Donc voilà, je veux dire, à partir du moment où ça pourrait être aussi une solution future, à savoir un reconfinement très local, comme il était question, et Loulou nous le disait, en Moselle. Donc reconfiné par endroit, par secteur, etc.
Oui, mais tu l'as dit toi-même, regarde, 20 000 personnes à un match de tennis.
De tennis, oui.
Il faut être raisonnable à un moment donné.
Ben oui, mais ils ont repris leur vie.
Mais ce n'est pas ce qu'on dit. On dit que la culture doit redémarrer avec des conditions sanitaires comme elles doivent être faites. Je ne vois pas pourquoi on peut s'agglutiner dans un métro et sans parler de culture, mais par exemple dans nos stations de ski, on ne peut pas être à deux sur un télésiège. Je suis désolée, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Le monde alpin et de la montagne ne comprend pas non plus cet état de fait. Pourquoi on ne peut pas aller dans un cinéma en laissant des places vides, en respectant les gestes barrières, alors qu'on peut le faire, encore une fois, dans le métro. Il faut être raisonnable à un moment donné. On peut monter dans des bus, on peut très bien aller au cinéma dans des conditions tout à fait acceptables et en mettant des gestes barrières. Pourquoi tu peux rentrer, aller faire des courses dans un grand magasin et tu ne peux pas aller t'asseoir dans un cinéma? C'est quand même quelque chose.
Je n'ai pas la réponse.
Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir une ligne. Quand tu as une ligne, tu la tiens et c'est pour tout le monde pareil ou c'est pour personne. Je ne vois pas pourquoi. Évidemment qu'on ne peut pas refaire un festival d'Avignon comme c'était le cas avant, évidemment. Mais pourquoi on ne pourrait pas le faire avec des conditions sanitaires drastiques?
Tout va bien, ils vont se tenir les festivals.
Le passeport.
Moi, je pense que le passeport, malheureusement, va être quelque chose qui va s'imposer, en particulier au niveau des relations internationales, parce que le jour où je remettrai les pieds aux États-Unis, j'espère le plus tôt possible, eh bien, on me demandera certainement un passeport vaccinal en stipulant que je suis absolument immunisé contre toute espèce de Covid.
Ça paraît logique. Hein. Ouais. Je pense que ça paraît logique. Peut-être pour aller à l'étranger. Maintenant, ça paraît peut-être moins logique, comme le disait Marie, en local.
Moi, je dis ça parce que, si vous voulez, les relations internationales, en particulier le commerce international, s'est ralenti considérablement. Et c'est là où on va subir les premiers effets. Vous n'avez qu'à voir chez Renault, par exemple, pour leur usine, je crois que c'est Sandouville, qui est en rupture de technique du fait des approvisionnements qui manquent, ce qu'on appelle les shortages, donc en provenance de Chine. C'est terrible parce que on a une économie qui est tellement interdépendante que maintenant, c'est tout au ralenti. Et si on n'a pas, quelque part, les moyens de prouver qu'on est en bonne santé, ou tout au moins immunisé au niveau de vaccination vis-à-vis du Covid, ça ne passera pas, je veux dire. Malheureusement, et puis c'est vrai qu'on aurait pu adopter ça au niveau des arts et de la culture, mais c'est pas forcément, Marie-Jo a raison de dire que si c'était, on va dire, géré correctement, ça ne devrait pas poser particulièrement de problème, en particulier sur les remontées mécaniques, je veux dire, avec un télésiège 6 places, tu fais monter deux personnes à l'extrémité.
Le passeport, Michel?
Passeport pour l'international, tout tout à fait d'accord. Après, sur le territoire, j'avoue très sincèrement que ça me gênerait un peu. Mais pour le coup, après, il faut aussi, à un moment donné, faire preuve, de, entre guillemets, d'allégeance. Si c'est la clé pour retrouver une vie normale et ouvrir, réouvrir le commerce d'une manière normale, il faut peut-être passer par cette période de transition. Mmh. J'avoue très sincèrement, j'en sais rien. Après, c'est vrai qu'on est tous responsables envers nous et envers les autres. Ça devient compliqué.
Mmh. Je voulais rajouter, excuse-moi.
Je t'en prie, je t'en prie, Jean. J'ai... Aïe.
Ne frappe pas Michel, Jean, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y, Michel reprendra. Bah, tu avais un truc à finir, finis-le.
Oui, tout simplement, pour reprendre les stations de ski, etc. Il y a un moment donné, quand vous travaillez avec, je dirais, un potentiel de 50%, ça n'est plus viable. Économiquement, pas financièrement, économiquement.
Ça c'est l'autre problème, effectivement, parce que la jauge drastique peut ne pas être suffisante pour faire vivre l'entreprise aussi. Ça, il faut le souligner.
Tout à fait. Mmh. Voilà, j'en ai terminé.
En fait, moi, je voulais simplement rajouter que finalement, nos gouvernants, ils n'ont peut-être pas forcément peur de ce genre de situation, de la réouverture des stations en tant que telle, remontée mécanique, tout ce qui va avec. Mais c'est l'après-ski. Je pense que c'est le confinement qui leur fait toujours peur. Oui. Confinement familial, confinement entre amis, confinement dans les boîtes. C'est là où il y a les clusters qui se forment.
Mmh. Et je pense tu as raison, il y aurait un contresens entre le couvre-feu et effectivement l'après-ski. Mmh.
C'est difficile d'avoir une activité à deux vitesses. Tu vas faire du ski la journée, puis le soir, tu rentres à la maison, mais surtout, tu vois personne.
Ben oui.
Parce que finalement, l'après-ski est quelque chose de tout à fait convivial. Ben,
c'est important.
Par contre, le passeport vaccinal, ma position, c'est que tant qu'on est à 3 millions, je crois, de personnes vaccinées,
on est d'accord.
La question ne se pose pas.
Mais bien sûr.
On pourra en reparler.
À terme, dans quelques temps.
Quand 60% de la population
sera vaccinée. Parce que c'est vrai que ce serait logique.
La situation aura changé.
Et est-ce que ça servira à quelque chose? Non, peut-être pas. Ouais, donc voilà.
C'est prématuré d'aborder cette question. Oui, pour moi, c'est un débat qui clive, mais qui ne sert à rien. Par contre, tu as oublié d'aborder la question que tu nous avais mis.
Dis-moi.
Que tu nous avais envoyé, c'est la décision concernant Macron de ne pas reconfiner malgré les
scientifiques.
Les scientifiques qui n'arrêtaient pas
est-ce
de nous dire...
Est-ce que le politique est revenu sur les devants de la scène?
Ça m'arrive de dire du bien de Macron, tu vois. Et je trouve qu'il a eu une position tout à fait clairvoyante. Oui. Et je pense que c'est de bon augure que la politique reprenne le dessus sur les scientifiques.
Tu sais qu'il a... Et pourtant, il avait Véran sur le dos, plus le Premier ministre, Jean Castex, parce qu'eux étaient pour le confinement.
Oui, parce qu'ils écoutent les scientifiques, on peut les comprendre aussi. Hein. Mais bon, là, Macron, il a pris un risque, il a pris un pari, il ne craignait pas grand-chose quand même entre nous, parce que si jamais il y avait une remontée, ça peut arriver.
Tu sais que les sondages donnent les Français pour le reconfinement. Hein,
oui, mais bon...
À une majorité.
Parce que les Français... Mais je les comprends, moi je suis dans la même position qu'eux. On n'arrive pas à mesurer la gravité de la situation qui est face à nous au niveau économique et social. La situation face à nous...
Ben on ne la voit pas, celle-là, pour le...
Mais elle est terrible. Elle va se traduire par des gens. Enfin, vous avez vu les étudiants. Hier, France Inter a passé sa journée... Enfin, les chaînes publiques ont passé leur journée à parler de ce qui se passait dans les facs. Mmh. C'est effrayant, les témoignages qui ont été délivrés à cette occasion. Il y a des jeunes étudiants qui sont dans des situations... Donc moi, je soutiens la position de Macron. Il a repris le pouvoir politique. Il a décidé, on ne reconfine pas. Il a bien fait, on va voir.
Donc tu votes pour lui en 2022, tu votes pour lui.
Non, c'est pas la question.
C'est un aveu.
Si ça se trouve, il sera même pas candidat.
Voilà.
Il a dit lui-même que si des événements se produisaient 6 mois avant, il serait pas candidat.
C'est un politique. C'est comme tout le monde. Personne n'est candidat. Toi non plus, Jean-Claude.
Exactement.
T'es pas candidat. Et puis on verra plus tard.
D'ailleurs, Marie-Jo, je lisais dernièrement, il y a quelques jours ou quelques semaines dans le Dauphiné, ceux qui allaient se représenter au départemental.
Il y en avait 90% par leur courage.
90% qui disaient bon, c'est pas.
C'est tabou, paraît-il.
On ne sait pas. On ne sait pas. Non, on va se tâter, on va voir et tout. C'est quand même bizarre.
C'est pas bizarre.
C'est le jeu politique.
Il y a une clause de revoyure qui est.
Non, puis c'est vrai
sur les Marie-Jo, élections départementales. Marie-Jo,
attends. Vas-y.
La période, elle s'y prête pas.
Je laisse la place à mon
invité. Non, pas du tout. Non, mais je suis d'accord avec toi. La période, elle se prête pas beaucoup à présenter ta candidature en ce moment, parce que les gens ont la tête ailleurs, comme
tu
disais.
Tu sais, moi j'ai toujours plaidé pour l'honnêteté. Ouais. Quand on est honnête, il y a un certain nombre de sortants, voire quasiment la totalité des sortants du conseil départemental qui sont repartants. Donc pourquoi ne pas le dire ? Ça te sert à quoi de ne pas dire que tu ne seras pas candidat alors que tu sais très bien que tu l'es ?
Moi, je suis d'accord.
Moi, j'estime que c'est se foutre de la gueule des gens et de ne pas assumer ses propres décisions.
Mais moi, je suis d'accord avec toi.
C'est terrible.
Ce n'est pas terrible.
Le seul qui a eu le courage de dire qu'il ne repartait pas, c'est Gérard Fromme.
Oui, c'est le seul
qui a eu le courage de dire « Moi, j'arrête ».
Oui, mais c'est lié aussi.
Non, c'est pas lié à rien du tout.
Il est comme dans la même poste. Il arrive à un certain âge où il faut arrêter, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai au regret de... Moi, je suis président d'une mutuelle. Dans un an, je passe le relais. Parce qu'à 72 ans, faut passer le relais. Quoi, parce qu'on ne va pas être à 80 ans encore occupé des postes, de responsabilité.
Parce que...
Voilà, c'est tout. Je pense que Gérard, qui est un gars responsable, au demeurant, il se dit, bon, ben voilà, il est plus âgé que moi encore en plus. Ça va, on ne va pas rester...
Ad vitam aeternam, comme on dit.
Jusqu'à la mort, c'est pas sérieux.
C'est votre honneur, oui.
Ce que
je voulais dire, c'est que tu dis, la période ne se prête pas à dire aujourd'hui si on se présente ou pas, mais et depuis que la politique est politique, la période ne s'est jamais prêtée, puisque à chaque fois que tu demandes à quelqu'un, six mois avant une élection, s'il va se présenter, il dit, oh, c'est pas le moment, on verra plus tard.
Bien sûr, surtout quand tu es sortant. Surtout quand tu es sortant, tu as tout intérêt à ne pas dire que tu y retournes, parce qu'en attendant, tu te protèges entre guillemets sous le fait que tu travailles. Alors,
si
tu attends les six derniers mois pour te mettre au travail, c'est un peu juste. C'est un peu juste. Je suis désolée.